Vous écoutez On lit pour vous.
Pourquoi le cancer ne frappe pas tout le monde de la même façon ? Une découverte majeure éclaire le rôle de nos gènes. Un texte de Véronique Molena, paru le 30 juillet 2026 dans Futura Science. Pourquoi l'exposition à un facteur de risque de cancer entraîne une maladie chez certains et pas chez d'autres ? Une étude publiée dans Nature apporte un nouvel éclairage sur cette énigme en révélant un mécanisme jusqu'ici insoupçonné. Une découverte qui pourrait, à terme, transformer la prévention, le dépistage et la médecine personnalisée. Mon grand-père a toujours fumé et il a vécu en bonne santé jusqu'à 96 ans. Qui n'a pas entendu ce genre d'histoire surprenante qui tendrait à démontrer que nous ne serions pas tous égaux face aux mêmes facteurs de risque ? Si les scientifiques et les médecins s'accordent sur le fait que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à des habitudes potentiellement néfastes comme le tabac ou l'exposition au soleil, on ne sait pas très bien quels mécanismes sont en jeu dans ces différences. Pour la première fois, des chercheurs des universités de Cambridge et d'Édimbourg ont mis en évidence comment le patrimoine génétique pourrait intervenir pour moduler le risque. C'est en tout cas ce que suggère leur étude publiée dans la prestigieuse revue Nature. Pourquoi un même facteur de risque ne produit-il pas les mêmes effets ? Pour bien la comprendre, il faut reprendre quelques bases. Des tumeurs peuvent apparaître lorsque notre ADN accumule des mutations qui amènent les cellules à proliférer et à ignorer les signaux qui normalement leur ordonneraient de mourir avant de causer des dommages. Parmi les facteurs connus pour influencer l'ampleur des dommages à l'ADN, on retrouve bien sûr l'exposition à la fumée de cigarettes, mais aussi les rayons ultraviolets, l'amiante, les rayons X ou encore certains virus, papillomavirus, virus de l'hépatite B. Prenons la cigarette. On sait que la plupart des fumeurs ne développent pas de cancer du poumon alors que certains non-fumeurs en sont atteints. Pour tenter d'expliquer ce paradoxe, les chercheurs britanniques ont élevé quatre lignées de souris présentant des degrés de sensibilité variables au cancer du foie, couvrant ainsi une diversité génétique comparable à celle observée chez l'être humain. Des souris génétiquement différentes face aux mêmes cancérigènes. Ils ont exposé les rongeurs à la diéthylnitrosamine, DEN, un agent cancérigène présent dans la fumée de cigarette qui, en provoquant des mutations de l'ADN dans les cellules du foie, entraîne leur cancérisation. Comme chaque souris avait reçu la même dose au même âge dans des conditions contrôlées, les chercheurs ont pu éliminer les variations environnementales, autres facteurs de risque, qui compliquent généralement les études menées chez l'humain. Ils ont ensuite séquencé les génomes des tumeurs et analysé l'activité génétique associée. Afin de comparer la formation spontanée de tumeurs entre les différentes lignées, ils ont aussi examiné les souris non traitées, témoins. Ces données leur ont permis de reconstituer le mode d'évolution de chaque tumeur à partir de la mutation initiale à l'origine du cancer. Que montrent les résultats ? Dans quasiment tous les cancers, il y a acquisition par les cellules d'une mutation conductrice qui active la même voie de signalisation favorisant le cancer, la voie MAPK, M-A-P-K. C'est une cascade de signaux moléculaires qui régule la croissance et la différenciation cellulaire et joue un rôle clé dans de nombreux types de cancers. Ce qu'ont découvert les chercheurs, c'est que selon le patrimoine génétique hérité par la souris, la mutation conductrice acquise modifie ou non l'activité d'autres voies de signalisation associées au cancer et entraîne ou non une tendance marquée à la duplication de l'ensemble du génome, un phénomène au cours duquel la totalité des chromosomes est doublée. Une découverte qui change notre vision de l'évolution des cancers. Ainsi, le patrimoine génétique influencerait à la fois les processus de mutation et les voies conduisant au développement tumoral. Selon Duncan Odom, l'auteur principal de l'étude, le cancer ne survient pas entièrement par hasard. Bien que les tumeurs aboutissent souvent au même stade biologique final, le cheminement pour y parvenir est déterminé par le patrimoine génétique de l'individu. En d'autres termes, le génome hérité ne détermine pas seulement la probabilité d'avoir un cancer, il oriente aussi le chemin évolutif que ce cancer emprunte une fois initié, en influençant comment les mutations sont sélectionnées, la vitesse de progression et la stabilité du génome tumoral. Cette étude pourrait avoir des implications en termes de dépistage et de médecine personnalisée. Pour le docteur Sarah Aitken, qui a aussi participé à l'étude, si le patrimoine génétique influence à la fois le risque de cancer et la trajectoire évolutive des tumeurs, les futures stratégies de prévention et de dépistage devront prendre en compte la génétique héritée et la diversité des populations. D'autres recherches, notamment chez l'homme, seront nécessaires pour confirmer cette découverte, mais elles suggèrent déjà que le génome d'un patient pourrait un jour aider à interpréter quelles mutations ont été sélectionnées, la vitesse probable d'évolution de la maladie, certains mécanismes de résistance, voire de mieux évaluer le pronostic. C'était « Pourquoi le cancer ne frappe pas tout le monde de la même façon ? Une découverte majeure éclaire le rôle de nos gènes. » Un texte de Véronique Molena, paru le 30 juillet 2026 dans Futura Science.
Quand les grands-parents ne respectent pas vos limites. Un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 9 juillet 2026 dans Urbania. Les séjours chez mamie et papy, bien que salutaires pour les parents en manque d'options pour gérer leur progéniture au quotidien, peuvent parfois causer bien des frictions. C'est notamment le cas quand ils décident que toutes les règles du domicile familial ne passaient pas la porte de leur havre du lâcher-lousse. J'ai discuté avec Suzanne Vallière, psychologue, formatrice spécialisée, psychothérapeute, conférencière et co-autrice du livre « Le psy-guide des grands-parents » pour déterminer quelles sont les meilleures pratiques et éviter qu'une visite prolongée chez les grands-parents transforme vos enfants en démogorgons. Voici ce que j'en ai tiré. S'entendre sur des règles à respecter. Même si ce n'est pas toujours facile, les parents et les grands-parents doivent être en accord sur un certain cadre à respecter, même si les limites peuvent être négociées sur certains aspects, comme l'heure de coucher ou la quantité de Skittles ingérés en une journée, pour sécuriser les enfants et assurer une constance avec les règles de la maison. D'ailleurs, une étude démontre que 40% des parents disent que les mésententes sont dues au fait que les grands-parents ne sont pas assez sévères. Selon Suzanne Vallière, la mise en place de cette structure permet aussi aux grands-parents de ne pas se faire manipuler par leurs petits-enfants qui pourraient profiter d'un certain flou. Les petits ne sont pas supposés arriver chez les grands-parents et avoir l'impression qu'ils peuvent tout faire, sans quoi une perte de contrôle est quasi inévitable, précise-t-elle. Comprendre les rôles de chacun. Une mésentente sur les responsabilités des parents et des grands-parents peut aussi amener de l'eau au moulin de la bisbille quand les aînés prennent soin de la marmaille pour une période prolongée. Le rôle des parents et d'éduquer leurs enfants en leur inculquant des valeurs et des comportements qui leur permettent éventuellement de devenir responsables et autonomes. Celui des grands-parents est de suivre ce modèle instauré en s'assurant de demander l'avis parental avant de prendre des décisions importantes tout en mettant l'emphase sur le plaisir. Le rôle des grands-parents, c'est d'emmagasiner des souvenirs dans l'enfance des petits-enfants, pas de jouer un rôle éducationnel. La psychologue mentionne que les grands-parents doivent se rappeler que ce n'est pas à eux de prendre toutes les décisions comme ils le faisaient auparavant quand ils étaient responsables d'élever leurs propres petits. Elle explique que les grands-parents doivent accepter de jouer un second rôle en laissant l'avant-scène aux parents. Donner un coup de main au quotidien. Souvent, les parents croient à tort que les grands-parents, comme ils ont un horaire moins chargé, ont le temps et l'énergie pour compléter toutes les tâches requises lors d'une ou plusieurs journées de gardiennage. Il faut cependant se rappeler que ces nombreuses responsabilités ne sont pas toujours faciles à gérer pour des personnes un peu plus âgées habituées à une routine plus relaxe. La spécialiste avance qu'il est bénéfique pour tout le monde que la lourdeur de la tâche ne vienne pas gâcher ces moments passés entre grands-parents et petits-enfants. Elle ajoute qu'il est possible de rendre la routine plus facile en fournissant des repas ou des idées, par exemple. Il faut aider les grands-parents pour que ça se passe mieux pour tout le monde, avance-t-elle. Communiquer dans le respect. Ça concerne toutes les relations humaines, mais la communication est d'une importance capitale pour s'assurer que tout se déroule le mieux possible, autant avant que pendant et après le séjour. C'est notamment le cas lorsque les parents souhaitent que certaines règles soient respectées. Parfois, une brève explication pour motiver le raisonnement derrière une façon de faire demandée par les parents peut faire comprendre l'enjeu aux grands-parents et inciter ces derniers à la respecter. Une mauvaise communication peut aussi créer des situations où les parents croient que les grands-parents tentent d'outrepasser leur autorité, alors qu'il s'agit la plupart du temps d'un simple malentendu, selon la psychologue. Lorsqu'il y a conflit sur les méthodes employées, elle avise d'éviter à tout prix de tomber dans les extrêmes, notamment en menaçant les grands-parents qu'ils pourraient ne plus accueillir leurs petits-enfants. À moins que cela ne soit justifié par un événement grave, bien entendu. Ces désaccords se nomment dans la politesse, le respect et la bienveillance, ajoute Suzanne Vallière. Elle conseille par ailleurs de discuter de ces enjeux qui peuvent être difficiles à aborder dans un endroit public comme un café pour assurer un certain décorum. Lâcher prise des deux côtés. Des parents plus stricts ont tendance à ne pas vouloir déroger des règles établies au domicile familial, même quand les enfants séjournent à l'extérieur. Or, tant qu'il n'y a pas de dérape, le compromis devrait être privilégié. Il faut aussi se rappeler que, malgré leur jeune âge, les petits sont en mesure de comprendre que certaines exceptions ne sont acceptées que lors de leur visite chez les grands-parents. Suzanne Vallière ajoute: tant que ce n'est pas grave et que ça n'atteint pas la protection physique, au niveau nutritionnel ou psychique de l'enfant, je ne pense pas qu'une intervention soit nécessaire. C'est juste de beaux souvenirs. Elle stipule qu'il n'est pas toujours facile pour les grands-parents de comprendre qu'ils n'ont plus de pouvoir éducatif sur leurs enfants lorsque ceux-ci seront adultes. L'autorité parentale peut être particulièrement atteinte quand un grand-parent reprend un parent devant un enfant, ce qui mine sa crédibilité selon l'experte. Faire une transition tout en douceur. Après une période de privilège, comment réinstaurer la routine ennuyeuse de la demeure familiale? Tout simplement, assurez-vous de prendre un moment pour expliquer à vos enfants que ces moments sont exclusifs aux visites chez les grands-parents. Il est également possible de mentionner que s'ils avaient cours tout le temps, ils seraient infiniment moins spéciaux. Suzanne Vallière suggère aussi, de façon plus concrète, de faire prendre un bain aux enfants quand ils sont en période de surexcitation ou de crise, comme l'eau aide naturellement à relaxer le corps et l'esprit. Elle affirme qu'il est primordial pour les parents de ne pas prendre ces périodes de transition plus difficiles de façon personnelle en menaçant de mettre fin aux visites chez les grands-parents. C'est la faute de personne. C'est tout simplement situationnel, conclut-elle. une petite demi-heure dans l'eau chaude, ça relaxe tout le monde. Même après une surdose de jujube et de cocomelon. C'était « Quand les grands-parents ne respectent pas vos limites », un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 9 juillet 2026 dans Urbania.
Une balade dans le Hochelaga de Rémi Bourget, une entrevue réalisée par Benoît Lelièvre, paru le 23 juillet 2026 dans Urbania. Au cœur de l'univers du roman Promenade Hochelaga. Même armé d'un GPS, il est possible de se perdre dans Hochelaga Maisonneuve. Surtout si on cherche un endroit précis. L'avocat Rémi Bourget, intervenant spécialiste dans les médias, grande gueule émérite sur les réseaux sociaux, ancien collaborateur Urbania et maintenant auteur, m'a donné rendez-vous à 10h du matin dans un parc, près de la guinguette sportive Nadia. Sauf qu'une fois sur place, je n'aperçois ni parc, ni guinguette, ni même Rémi. À la place, un immense bloc de béton abandonné, un chantier de construction et un chemin de fer. Après quelques minutes de vivotement confus, Rémi apparaît au bout d'une ruelle. Il est assez facile à reconnaître avec sa prothèse à l'effigie de Batman. Le parc est de l'autre côté de la traque de chemin de fer. On ira tantôt si tu veux. Mais faut passer en dessous du viaduc. Sinon, le Canadien Pacifique va nous donner un ticket, m'explique-t-il. La porte d'entrée de Montréal. Originaire de la Valtrie, Rémi Bourget est arrivé dans Hochelaga Maisonneuve à l'âge de 17 ans. Il n'est jamais reparti. Je suis venu en ville pour étudier au cégep du Vieux-Montréal. Hochelaga était une porte d'entrée pour un ticu de région comme moi. C'était abordable et proche du centre-ville. C'est le premier endroit où plein de jeunes s'installent. Alors que la majorité quitte le quartier dès que les moyens le permettent, Rémi s'y est établi. 25 ans plus tard, il y a même fondé une famille et ses deux garçons fréquentent l'école publique. Si Rémi est le premier à reconnaître son privilège, il refuse de laisser sa profession ou son statut l'éloigner d'Hochelaga. C'est un grand melting pot, dit-il. Oui, il y a des travailleuses du sexe et des junkies qui vivent ici, mais il y a aussi plein de jeunes professionnels, de jeunes parents. C'était important pour moi de montrer cette mixité sociale dans le roman. Certains endroits sont plus gentrifiés que d'autres. Mais ici, personne ne vit dans une bulle. Ça ne se passe pas sans heurts, bien sûr. On développe une certaine vigilance, surtout quand on devient parent. Rémi Bourget est détendu et souriant. Il a toutes les raisons de l'être. Son tout premier roman, « Promenade Hochelaga », apparaître chez Hurlante éditrice le 6 août, est en réimpression avant même d'avoir atterri en librairie. J'ai eu le plaisir de lire le livre il y a quelques semaines. Le portrait franc et honnête, dénué de la romance que trop d'écrivains québécois prêtent au quartier bigarré de la métropole, promet de faire jaser bien au-delà des cercles littéraires. Difficile mais empreint de tendresse, le récit expose les rouages qui gardent le quartier dans la précarité. Promenade Hochelaga, c'est l'histoire de quatre personnages au destin qui s'entrecroisent. Une travailleuse du sexe, une mère monoparentale, un homme à tout faire avec un grave problème de dépendance et un charismatique avocat qui n'a absolument rien de bienveillant. un choix aussi intriguant que rafraîchissant pour l'auteur qui exerce lui-même la profession. Robin est le premier personnage qu'on rencontre, mais il ne s'agit surtout pas d'un alter ego. Je voulais montrer que malgré notre provenance, on peut se retrouver dans le même genre d'étau. Robin a un masque social plus valorisé, mais il est à une ou deux mauvaises décisions d'être dans la même situation que les autres. Que tu sois avocat ou travailleuse du sexe, tu peux avoir les mêmes problèmes, les mêmes dépendances, confie l'auteur. En se promenant dans le quartier, on peut apercevoir des tentes plantées un peu partout, souvent à l'abri des regards, dans les boisés ou sous les viaducs. Tu savais que des gens font pousser des légumes sous les viaducs? Je me promenais par là l'autre jour et je suis tombée sur un plant de piment. Peu importe leur situation, tout le monde travaille fort pour améliorer sa condition. C'est quelque chose qui nous unit. Et c'est de ce lien dont je voulais parler dans le roman. Un autre aspect de promenade Hochelaga qui saisit l'imaginaire, c'est ce regard franc, mais sans jugement, que Rémy Bourget porte sur la consommation de drogue, particulièrement à travers les personnages de Danny et Fanny. On assiste, impuissant, à leur autodestruction, tout en comprenant, grâce à la sensibilité de l'auteur, comment ils en sont arrivés là. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans des shops, et du monde comme ça, j'en ai rencontré à la pelletée, raconte-t-il. C'est pas qu'ils veulent pas s'en sortir. C'est que leur cerveau roule sur le circuit de la dépendance. Quand Danny reçoit son chèque de paye, il fait un budget. D'une certaine façon, il est organisé. Mais il n'a pas les outils pour voir au-delà de ça. Quand tu grandis avec des parents qui ont un problème de dépendance, ils ne vont pas t'apprendre à cuisiner ou à économiser. Tu vas reproduire ce qu'ils font. L'auteur de Promenade Hochelaga estime que le quartier souffre de problèmes plus grands que les limites de son territoire. La gentrification, c'est un problème controversé et je suis bien conscient d'en faire partie. J'habitais ici en tant qu'étudiant pauvre qui faisait des épiceries de 40 $ par semaine et maintenant, je fais vivre les bons restaurants du quartier. Pour qu'on se côtoie sans préjugés, ça prend des écoles et des garderies publiques qui fonctionnent. Mais avec Donald Trump et la montée du techno-fascisme, c'est malheureusement pas en haut de la liste de priorités pour nos gouvernements. Pas juste un avocat. La littérature est arrivée dans la vie de Rémy Bourget bien avant le droit. C'est un rêve de jeunesse qu'il réalise en signant ce premier roman. Amputé d'un pied, à l'âge de 9 mois, il a passé son enfance empêtrée dans un cycle de convalescence. À l'âge de 13 ans, pendant un été post-opératoire particulièrement frustrant et douloureux, son oncle lui a offert « Ça » de Stephen King pour l'aider à passer le temps. Le déclic a été instantané. J'ai lu les 3 tomes en une semaine. Plus de 1000 pages, se souvient-il. Cet été-là, ça avait été particulièrement l'enfer. La lecture m'a été d'un grand secours. Bien qu'on le connaisse dans la sphère publique comme avocat et vulgarisateur, il ne s'est jamais conformé à l'image qu'on se fait de la profession, autant sur le plan vestimentaire qu'idéologique. On peut d'ailleurs lire sur Facebook plusieurs de ses prises de position sur des sujets épineux auxquels plusieurs hésitent à se frotter. Ce qui compte, c'est ce que t'accomplis. J'ai les compétences et les victoires professionnelles pour être 100% moi-même. À son avis, ses prises de position, souvent très à gauche, considérant le milieu dans lequel il évolue, ne sont pas un obstacle à son gagne-pain. Si j'ai perdu des clients à cause de ça, ils ne me l'ont jamais dit. Par contre, je sais que j'en ai gagné. Quand t'attaques pas les personnes et que tu t'en tiens aux idées, tu peux naviguer en eau trouble, soutient-il. En 2021, c'est à la suite d'un épuisement professionnel que Rémi décide d'ouvrir son propre bureau d'avocat. C'est ainsi qu'il a pu faire plus de place dans sa vie pour l'écriture et débuter la rédaction du manuscrit qui deviendrait, éventuellement, Promenade Hochelaga. Une passion qui fait désormais partie de son équilibre de vie. C'est lors de longues marches comme celles qu'on prend ensemble et de discussions avec des résidents du quartier que l'histoire s'est assemblée. Le principal obstacle à la liberté, c'est notre refus de la prendre, philosophe-t-il. Les gens arrivent dans un milieu comme le droit, avec des idées préconçues sur comment on doit être et comment on doit agir. Ils ont peur de ne pas avoir l'air compétent s'ils ne se conforment pas à une certaine image. Maintenant que je suis mon propre patron, je peux prendre cette liberté-là. Il travaille déjà sur une suite à Promenade Hochelaga qui s'intitule pour l'instant « Camping Notre-Dame ». C'est plus facile, maintenant que les personnages sont créés et vivent en moi, de les projeter dans de nouvelles situations. Si j'ai un souhait pour mes romans, c'est qu'ils puissent documenter dans le temps comment le quartier était vraiment à notre époque. Notre balade se termine au coin de Rouen et Moreau après 2 heures. 10 000 pas. Et quelques litres de sueur qui obscurcissent nos t-shirts. On est aussi cuit que 2 hot-dogs vapeur de la pataterie, mais la beauté meurtrie et l'espoir tenace qui caractérise Hochelaga Maisonneuve continuent de me trotter dans la tête longtemps après être revenu à l'air climatisé. Je ne pouvais pas demander meilleur guide que Rémi Bourget pour m'y initier. Sur les pages, ou à même les rues du quartier. C'était une balade dans le Hochelaga de Rémi Bourget, une entrevue réalisée par Benoît Lelièvre, parue le 23 juillet 2026 dans Urbania.